Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, rencontre hier entre le chef de l'État et les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Le capitaine Ibrahim Traoré promet de faire le nécessaire pour résoudre un tant soit peu les problèmes des universités burkinabées. Lutte contre la corruption. La transition donne carte blanche à l'ASELC pour traquer toute personne épinglée dans une malversation financière et autres infractions assimilées. Football, les étalons du Burkina ne pourront pas jouer contre le Togo à Ouagadougou fin mars. Déception du ministre des Sports après sa visite au stade du 4 août, toujours en réfection. Et selon des rumeurs, les femmes enlevées à Arbinda auraient été retrouvées au Mali. L'information est fausse, affirme Bourema Werem, l'ancien maire de la localité. Il est notre invité du jour. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, était hier mardi 17 janvier 2023 à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il est allé rencontrer les étudiants de ce temple du savoir où lui-même il a étudié la géologie. Au cœur des échanges, les problèmes auxquels font face les universités du Burkina dans leur ensemble. Il était également question du bilan et des perspectives de la gestion de la crise sécuritaire. On en sait plus avec Abdulaziz Zoulabou.
En mots introductifs, le capitaine Ibrahim Traoré dit être conscient des problèmes qui minent le milieu estudiantin pour le peu qu'il a pu constater lorsqu'il était lui-même étudiant. La suite des échanges à bâtons rompus a permis aux étudiants venus de plusieurs universités du Burkina de mettre sur la table leurs préoccupations majeures. Parmi elles, l'étroitesse de la voie qui mène à l'université Thomas Sankara, qui est la cause de décès de plusieurs étudiants. Des engagements ont été pris, séance tenante, dans l'optique d'apporter des solutions. Ibrahim Traoré, président de la transition.
Donc, dès cette semaine, je vais voir avec le ministre des Infrastructures qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence pour que la voie redevienne une deux voies au moins.
L'autre question, et non des moindres, il s'agit des activités académiques de certaines universités au ralenti, voire aux arrêts du fait du terrorisme. C'est le cas pour le centre universitaire de Dori et celui de Waïguia, Ibrahim Traoré.
Vous avez dû remarquer que nous avons redécoupé le territoire. Parce que nous étions à trois régions et ça ne permet pas de quadriller efficacement. Nous avons redécoupé et on a créé ce qu'on appelle des groupements de forces. Et je pense que pour ceux qui sont à Dori, ils doivent bientôt constater l'évolution. Waïguia également, j'ai même vu une marche avant-hier pour réclamer plus de sécurité. C'est normal. Dans les heures à venir, vous verrez aussi ce qui va se passer autour.
Le chef de l'État était préalablement face aux anciens chercheurs et au personnel de l'administration de l'Université Joseph Kizerbo. À ce niveau, les échanges se sont tenus à huis clos.
Cette visite du chef de l'État a suscité de l'engouement au sein des étudiants, des échanges instructifs pour bon nombre d'entre eux qui disent avoir surtout apprécié la franchise de leur hôte. Reportage toujours avec Abdulaziz Zoulabou.
Amassés par centaines sous le soleil brûlant, ils étaient nombreux, ces étudiants, à ne pas vouloir se faire compter l'événement. Certains veulent juste voir à quoi ressemble ce jeune capitaine dont le discours fait quelquefois penser au père de la révolution, le capitaine Thomas Sankara. Les plus chanceux se sont procurés de la place dans les deux amphis aménagés pour ce rendez-vous. Quelques heures d'attente et Ibrahim Traoré fait son entrée, acclamé par les étudiants. Après les échanges, les éloges ne manquent pas. Latifatou Edraogo est étudiante à l'université Joseph Kizerbo.
Maintenant que nous avons en face de nous, un président digne de son nom, un président qui, par ses actes, répond à nos requêtes.
Le message qu'il avait à l'endroit de ses étudiants semble également bien reçu. Salomon Yameogo, étudiant en lettres modernes à l'Université Joseph Kizerbo.
Sur la question sécuritaire, le président nous a demandé à être engagés, à être soudés pour ramener des gens qui sont dans des tentatives de mauvais chemin à regagner la nation.
Les étudiants se sont à leur tour engagés à cultiver le patriotisme et la tolérance, vœux formulés par le chef de l'État.
Revenons sur l'enlèvement les 12 et 13 janvier dernier d'une cinquantaine de femmes à Arbinda. Les États-Unis, préoccupés par cette situation, condamnent et exigent leur libération immédiate. L'annonce a été faite lundi dans un communiqué, Lamine Traoré.
Dans le communiqué du département d'État, les États-Unis exigent que les personnes enlevées doivent être rendues immédiatement et sans condition en toute sécurité à leurs proches. Les auteurs de l'enlèvement doivent être poursuivis et doivent être traités selon la rigueur de la loi, peut-on lire dans le communiqué. Nos pensées vont aux personnes enlevées ainsi qu'à leurs familles et autres proches, affirment les États-Unis. Toujours lundi, la France a condamné avec la plus grande fermeté l'enlèvement de ces femmes à Arbinda. La France appelle à leur libération immédiate, peut-on lire dans la déclaration. Le pays dit réaffirmer sa solidarité ainsi que son engagement aux côtés du Burkina Faso. Plus tôt lundi toujours, le gouverneur de la région du Sahel avait confirmé l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes entre les 12 et 13 janvier à Arbinda, dans la province du Soum, région du Sahel. Une cinquantaine de femmes ont été respectivement enlevées par des groupes armés terroristes à une quinzaine de kilomètres de Arbinda, village de Liki, et dans une autre localité située au côté ouest de Arbinda, dans la province du Soum, avait annoncé le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, le gouverneur du Sahel. Selon le communiqué du gouverneur, ces femmes ont été enlevées par des hommes armés alors qu'elles étaient à la recherche de fruits sauvages. Dès leur disparition signalée, des recherches ont été entreprises en vue de retrouver l'ensemble de ces victimes innocentes, saines et sauves, avait rassuré le gouverneur. Mais jusque-là, aucune trace des personnes enlevées.
Lamine Traoré, ces enlèvements de femmes à Arbinda rappellent les nombreux autres enlèvements par des hommes armés non identifiés. Pama, dans la région de l'Est, se souvient d'ailleurs de la vingtaine de jeunes enlevés le 13 janvier 2022 et toujours pas retrouvés, déplore Frédéric Onadja, ancien maire de Pama. Il a été joint hier mardi au téléphone par Denis Zungrana.
Avant le blocus total de Pama, ils ont pris au moins une vingtaine de nos jeunes. J'ai dit une vingtaine, là aussi, je ne peux pas exagérer, sinon on a un bon nombre de jeunes qui ont été kidnappés jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle d'eux. Bien avant quand même, le chef de service de la mairie qui s'occupe de l'état civil, lui, depuis le 31 mai 2020, qu'ils ont été enlevés, aucune nouvelle. Donc, c'est vraiment, chez nous, ça arrive aussi.
La cinquantaine de femmes enlevées à Arbinda étaient allées cueillir des fruits sauvages car la ville fait face à une pénurie de nourriture depuis plusieurs jours. On en parle en fin d'édition avec l'ancien maire de la localité Bourema, Ouerem. Il est notre invité du jour. Et en vue d'assurer le ravitaillement de plusieurs localités classées en zone rouge comme Arbinda, l'armée a sollicité mardi des camions de particuliers dans l'optique de continuer à assurer le ravitaillement des populations vivant dans les zones à fort défi sécuritaire, le chef d'état-major général des armées lance un appel à l'ensemble des Burkinabés afin de mobiliser les moyens logistiques nécessaires, peut-on lire dans le communiqué de l'état-major. Il demande à toutes les bonnes volontés de mettre à la disposition des forces armées à titre gratuit ou à prix social des camions avec conducteurs pour le transport des vivres et les denrées de première nécessité au profit de nos concitoyens en difficulté. Le patron de l'armée dit savoir compter sur le patriotisme et l'esprit de solidarité des Burkinabés pour la réussite de cette opération qui s'inscrit toujours, selon le communiqué, dans la vision du président de la transition, chef de l'État. Lutte contre la corruption. Dans la suite de ce journal, la transition donne les pleins pouvoirs à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption de traquer toute personne épinglée dans une malversation financière et autres infractions assimilées. Le ministre Bassolma Bazier l'a dit lundi dernier à Kudugu lors de la rencontre du cadre de concertation des organes de contrôle de l'État, de l'ordre administratif qui se tient du 16 au 21 janvier. Occasion pour la SULC de faire le bilan de ses activités en vue de se doter d'une feuille de route pour cette année. La correspondance à Kudugu de Sabuna Ouedraogo.
L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC se satisfait des activités menées sur le front de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées avec la réalisation de plusieurs missions de contrôle, d'activités de sensibilisation, de suivi de recommandations et l'interpellation des autorités politiques et administratives sur des mesures à prendre pour conformer la gestion publique aux normes qui les gouvernent.
Il y a naturellement aussi des sanctions qui sont prononcées.
Philippe Nuon, contrôleur général d'État.
Il y a des constats en termes donc de responsabilités pécuniaires qui ont été faites.
Cette année, L'ASELC compte accentuer ses actions afin de véritablement forger une culture de l'éthique et de la probité dans la conduite des affaires publiques. Cette démarche ne pourrait aboutir sans l'accompagnement des autorités de la transition. À ce sujet, les nouvelles autorités ont promis la soutenir et envisagent même supprimer la Haute Cour de justice. Bassol Mabazié, ministre d'État en charge de la fonction publique.
Que vous soyez député, que vous soyez ministre, on ne devait pas aller vers la mise en place d'une haute cour. Il faut juger les citoyens au même pied d'égalité. Si la façon de juger, la façon de faire, permet à tout un chacun de savoir qui n'est pas un super citoyen, nous allons réfléchir par deux fois avant de poser des actes.
Ce soutien de la transition vient réconforter l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui promet poursuivre sa mission de salubrité publique. Sabuna Ouedraogo, Koudougou Radio Omega.
Grand banditisme, le commissariat de police de l'arrondissement 2 de Ouagadougou a présenté mardi à la presse deux réseaux de 11 présumés délinquants mis aux arrêts. Une dizaine d'engins à deux roues, des téléphones portables, des pièces détachées des motos composent entre autres le butin saisi par le commissariat de police de l'arrondissement 2, ex-bascuit des mains de deux réseaux de présumés malfrats qui opéraient dans les villes de Ouagadougou et de Zignaré. Ils ont été démantelés par la police nationale avec l'appui de la population. L'information a été publiée sur le site de la police nationale. Le point avec Valérie Guéry.
S'agissant du premier réseau, ses membres spécialisés dans les vols dans les domiciles et devant les lieux de commerce profitaient de l'inattention des propriétaires qui ne se trouvaient pas à côté de leur moto pour s'en accaparer à l'aide de fausses clés. Les numéros de série de ces engins volés étaient falsifiés ou les cadres remplacés avant d'être écoulés entre 25 000 francs et 125 000 francs CFA en fonction de l'état de l'engin. Pour ce qui est du second réseau, ses membres s'étaient spécialisés dans les braquages et les vols à l'arraché sur les voies publiques. Ils sillonnaient dans la journée les artères de la ville et dès qu'une cible était identifiée, il la filait et profitait d'un moment d'inattention pour arracher son sac à main et disparaître dans la circulation. Ils arrivaient également que la victime soit suivie jusqu'à un lieu jugé propice pour passer à l'acte. Il l'y obligeait à ralentir à l'aide d'une arme, il la tenait en respect et retirait l'engin et tout autre objet de valeur trouvé en sa possession. Pour éviter d'être facilement identifié par les services de sécurité, les engins nouvellement volés étaient utilisés pour de nouvelles opérations et les anciens vendus entre 150 000 et 200 000 francs CFA selon la qualité. Selon la police nationale, plusieurs membres de ces deux réseaux ont été appréhendés et conduits devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Des arrestations rendues possibles grâce à la collaboration des populations.
Et en bref, le gouverneur de la région du Centre-Est a annoncé la fermeture de 20 sites d'exploitation artisanale de l'or dans un arrêté dont Omega Media a obtenu copie. Selon l'arrêté en date du 16 janvier 2023, la décision prend effet à compter du 23 janvier prochain et concerne des sites répartis dans 9 communes des provinces du Boulgou, du Koupé-Logo et du Kouritinga. Dans ce document qui ne précise pas les raisons de cette décision, le gouverneur de la région du Centre-Est invite les hauts commissaires de province, les premiers responsables des forces de défense et de sécurité, au niveau déconcentré, à veiller à l'application des termes du présent arrêté.
Omega Sport.
Les étalons reçoivent les éperviers du Togo le 21 mars prochain pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Tous espéraient voir ce match se disputer au stade du 4 août de Ouagadougou, mais la rénovation totale du stade tant attendue ne pourra pas être effective pour cette échéance. Le constat amer a été fait hier mardi 17 janvier 2023 par le nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boubacar Savadogo, lors d'une visite en compagnie des responsables des sports, du président du CNSB, des proches collaborateurs et des journalistes Ibrahim Bailly.
Cette visite du ministre Savadogo avait pour but de toucher du doigt les réalités du stade du 4 août en rénovation. Accueilli à son arrivée par les responsables du chantier, il fut conduit dans une salle pour une projection et avoir des explications sur les travaux en cours. Une séance de vérité qu'il a souhaité afin d'être situé. Entre prise de notes et remarques, les échanges ont été souvent houleux.
Parce que vous êtes là depuis, vous avez fait des milliards, je ne sais même pas comment c'est reparti. Et vous êtes toujours là pour des délais, pour nous donner des délais qui ne tiennent pas la route. Moi, je suis convaincu que jusqu'au 30 mars, vous n'aurez pas ça. Ce n'est pas normal. Ok, comment je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures. Vous donnez la date, ça ne va pas. Les étalons vont jouer dehors, c'est vous qui payez les dépenses. C'est vous qui dépensez pour que les étalons aient joué. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça.
C'est vrai, je pense que dans le mois de juin, on était ici aussi avec les journalistes où on nous avait donné le mois de septembre pour rendre l'ouvrage. Ce jour, j'avais des appréhensions. Parce qu'au regard de l'étendue des travaux, il n'était pas évident que ça puisse finir en septembre. Aujourd'hui, nous sommes là encore, on nous parle de mars, on nous parle... Il faut dire la vérité.
Le dernier mot revient à M. le ministre. Il faut que vous tapez du poing sur la table, sinon ça ne va pas marcher.
Pour que la tension ne continue pas à monter, on a écouté beaucoup de choses. Alors le président des étalons a dit que ça revient au ministre. Le ministre doit taper sur la table. J'ai tapé sur la table.
À entendre les explications des responsables du chantier qui donnent des délais d'exécution assez courts, quelques travaux et non des moindres ne sont pas encore achevés. Le ministre Sawadogo.
Ce que nous voulons, c'est que le stade du 4 août, qui porte le grand symbole du 4 août, qui est une infrastructure qui est la plus grande infrastructure sportive de notre pays, soit porte le flambeau. C'est ce qui nous intéresse. Le président a été très clair. On ne va pas revenir sur qui a fait qui quoi, qui n'a pas fait quoi ici. Nous voulons que, après notre travail, les choses soient claires. Et que quand on va revenir, le jour qu'on dira le stade est livré, tout le monde soit fier.
Le stade du 4 août ne sera donc pas prêt tout de suite et ce fut l'occasion pour le ministre Sawadogo de présenter ses excuses à tous les acteurs du sport, aux supporters, à l'ensemble du peuple burkinabé pour ce contretemps. Le ministre Sawadogo.
M'excuse auprès du peuple burkinabé, auprès des amateurs du sport, auprès des supporters des étalons, auprès des supporters de tous les clubs, de tous les sports, du fait qu'on ne peut pas honorer cette date qui avait été donnée. C'est une honte pour nous tous, ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui payent, ceux qui sont en contrôle, etc. Nous n'avons pas respecté les amateurs du sport et nous ne voulons plus que ça arrive. Je m'excuse du fond du cœur et je ferai tout ce que je peux avec les acteurs pour que cela n'arrive plus.
Le stade du 4 août, qui n'est pas qu'un stade de football, sera disponible en temps opportun et prendra en compte les autres disciplines telles que l'athlétisme, dont la piste est également à revoir, sans oublier la pelouse. Pour l'instant, un comité de suivi sera mis en place et sera présidé par les acteurs pour une bonne suivi de l'exécution des travaux.
L'invité de la rédaction.
La cinquantaine de femmes enlevées à Arbinda étaient sorties cueillir des fruits sauvages par manque de nourriture et non pour des habitudes saisonnières. C'est ce que nous dit l'ancien maire de la localité, Brema Werem. Selon lui, il s'agit de 53 femmes en tout qui ont été enlevées. Où sont-elles actuellement ? Pas au Mali en tout cas. Est catégorique notre invité. Il est interrogé par Denis Zungrana.
Brema Werem, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, on apprend qu'une cinquantaine de femmes ont été enlevées. Certains même parlent de chiffres qui seraient plus élevés. Qu'en est-il?
Alors, avant tout propos, je souhaiterais présenter mes vœux de l'année 2023 à l'ensemble de la population du Burkina. Que Dieu veille sur le Burkina et que les nouvelles autorités puissent reconquérir notre territoire afin que la stabilité y demeure. Et par rapport à la question, effectivement, les chiffres évoluent d'une information à une autre, d'une source à une autre. Mais particulièrement pour ce qui me concerne, depuis que l'événement s'est passé, j'ai enregistré à partir de mes sources 53 femmes.
53 femmes dans quel village?
53 femmes dont j'ai eu vent, il y a 38 femmes, dès le jeudi 12, si j'ai bonne mémoire, au sud-ouest d'Arbinda, et 15 autres femmes au nord-ouest d'Arbinda.
Alors, ces femmes, dit-on, étaient parties cueillir des fruits sauvages. Était-ce dû au manque de vivres ou bien une habitude dans cette saison de l'année?
Effectivement, ce n'est pas un manque par rapport à l'année, mais c'est la conséquence, effectivement, du manque de vivres au niveau d'Arbinda. Parce que depuis un certain temps, effectivement, au niveau d'Arbinda, le convoi se faisait rare. Depuis qu'il était rentré avec le convoi, je pense que ça fait près de 40 jours que le convoi n'est plus reparti là-bas. Avec le nombre de déplacés élevé, c'est normal que les gens se retrouvent sans quelque chose sous la dent. Donc, je peux conclure que c'est le fait qu'il n'y avait plus de vivres parce que nous avons assuré depuis près de 2 à 3 semaines, les gens vivaient des jujubes et des fruits sauvages. Connaissant la zone, savons que à pas plus d'un rayon de 5, 6, 7 kilomètres, c'est un peu difficile pour les uns et les autres, comme les femmes étaient jusqu'à présent à l'abri des frappes ou des attaques terroristes. C'est uniquement ces femmes qui pouvaient sortir pour aller chercher aussi bien le bois de chauffe que le fruit dont nous sommes en train de parler, ou bien les feuilles sauvages, pour quand même pouvoir mettre quelque chose sous la dent.
Est-ce que vous avez des informations de dernière minute en ce qui concerne ces enlèvements de femmes?
Oui, nous avons des informations. Nous savons qu'elles se portent bien, mais on ne peut pas dire plus parce que c'est les exposer davantage. Nous ne sommes pas les seuls qui vont écouter cette interview. Sinon, nous avons les informations, les sources par rapport à un certain nombre de choses.
À la localisation. Alors déjà, certaines sources évoquent que certaines femmes se retrouvent de l'autre côté de la frontière, du côté du Mali. Est-ce que vous confirmez cela?
Je pense que c'est un amalgame. Voilà, je pense que c'est un amalgame. Effectivement, la femme qui a été retrouvée vers Koro, les autorités locales de Koro nous ont touchés. Effectivement, ils ont pu l'identifier, c'est Imdal Binda. Mais je ne pense pas qu'elle fait partie des femmes qui ont été enlevées tout de suite.
Et comment est-ce que vous vivez cette situation en tant qu'ancien élu?
En tant qu'ancien élu ou pas, même si je n'étais pas élu, faisant partie quand même d'un des soi-disant de la population d'Arabinda, je suis inquiet, je suis désemparé. Mais il ne faudrait pas nous laisser divertir. Parce que pour moi, dans mes analyses, je pense bien que c'est une nouvelle stratégie de ces groupes armés terroristes. Et si nous ne faisons pas attention, peut-être on va faire assez de polémiques et causer plus de dégâts. C'est déplorable pour la population, c'est parce que moi-même j'ai mes parents qui font partie de ces femmes.
Une nouvelle stratégie, on devrait prendre garde pour être un peu plus précis.
Une nouvelle stratégie parce que si les gens ont la mémoire courte, je pense qu'à un certain moment, ils avaient déployé une des nouvelles stratégies du moment que certaines zones ne sont pas accessibles. Si vous prenez Arabinda particulièrement, ils ont des difficultés pour pénétrer la ville d'Arabinda. Voilà. Et nous savons que s'ils enlèvent ces femmes, il y aura des réactions, que ce soit du côté des FDS que du côté des volontaires. Voilà. Donc, c'est ne pas tomber dans leur stratégie, mais déployer une nouvelle stratégie qui permettrait de récupérer les femmes. Auparavant, ils sabotaient les points d'eau, les forages. C'était pour attirer les uns et les autres dans leur piège.
Donc cela pourrait être un piège pour que si jamais il y a des ambitions pour chercher à retrouver ces femmes, que les FDS tombent dans le piège.
Voilà, moi c'est ce que je pense en toute honnêteté. C'est ce que je pense en toute honnêteté.
Alors la ville d'Arabinda sent-elle un changement depuis les différents coups d'état du MPSA?
Oui, je dirais qu'il y a quand même un changement. Le changement peut être positif ou négatif. Voilà, parce que le MPCR, rappelons qu'il y a eu 2 coups d'État aujourd'hui, nous sommes avec le MPCR 2. Avec le MPCR 1, moi je dirais pas, je parlerai pas uniquement de l'Arabinda, je parle de l'ensemble du Burkina. Parce que s'il y a une stabilité sécuritaire au niveau de l'Arabinda et que dans les autres zones il n'y en a pas, je pense que c'est peine perdue. Alors donc, si nous devons analyser, il faut tenir compte de l'ensemble des zones à fort défi sécuritaire. Comment ça se passe? Et je pense qu'avec les MPCR 1, le discours qu'on a reçu ou qu'on a acclamé au début par rapport à reconquérir le territoire, mais nous nous sommes rendus compte sur le terrain que la parole n'est pas jointe à l'action. Je ne dirais pas que les MPCR 2, c'est la bienvenue, parce que les coups d'État ne servent pas, ça ramène toujours le développement en arrière d'une manière ou d'une autre. Mais avec le MPCR 2, en tout cas, ce que je peux dire avec les nouvelles stratégies que le nouveau gouvernement a déployées, nous entendons par-ci, nous confirmons par-là que ça se passe bien. Je peux prendre quelques exemples tels qu'à Solenzo, qu'on a pu récupérer la ville de Solenzo, et tout dernièrement aussi à Falangountou, comme à Seba. Et au niveau d'Arabinda aussi, quand vous avez posé la question sur Arabinda, je pense que depuis que le MPCR 2 est là, en tout cas pour ce qui concerne les attaques, les GED, nous n'avons pas enregistré. Sauf que ce que j'ai dit, que c'est des nouvelles stratégies qui sont mises en place et que ces nouvelles stratégies aussi ont des conséquences. Voilà. Si vous constatez de gauche à droite, effectivement, avec les nouvelles stratégies mises en place, ça permet pas au convoi de faire des rotations rapides. La conséquence est que les gens se retrouvent effectivement sous alimentation.
Merci à vous, Bourema Werem.
Merci bien.
À l'instant, notre invité Bourema Awerem, ancien maire de la localité d'Arbinda. C'est la fin de ce journal mis en ondes par Fidel Compaoré. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à l'écoute de Radio Omega. Et surtout, n'oubliez pas prudence, tolérance et courtoisie en circulation.
Radio Omega, l'info en direct.